Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 28 juin 1995.
C'est le dernier cours de philosophie première de ce semestre, puisque demain et après-demain, ce sera la théologie naturelle qui l'emportera. Essayez la dernière fois avec vous de montrer comment l'un, dans une philosophie réaliste, ne spécifie pas en premier lieu mon intelligence. Mon intelligence est faite pour l'être. Et non pas premièrement pour l'un. C'est pour cela que saint Thomas affirme 175 fois « Primo cadit in intellectus ens ». C'est « ens » ce qui est, qui saisit en premier lieu. Mais d'autre part, des gens très intelligents, tout le grand courant néoplatonicien qui est au point de vue quantitatif de beaucoup le plus important et qui a marqué, on ne peut pas nier, qui a marqué très profondément les pères de l'Église. Maxime le Confesseur pour l'Orient, Thomas d'Aquin pour l'Occident, ce sont les deux qui ont reconnu que Aristote allait plus loin et qu'il fallait suivre Aristote. Maxime le Confesseur, d'une façon moins nette. Mais Thomas d'Aquin, d'une façon très nette. Je ne vois pas comment, si on lit Thomas d'Aquin avec un peu d'attention et de netteté, qu'on puisse dire qu'il est néoplatonicien. Ça m'a toujours semblé un a priori affectif. On veut habiller Thomas d'Aquin du néoplatonisme. On oublie que, en tant que théologien, de la doctrine sacra. Thomas d'Aquin met la foi avant l'intelligence. Et la foi nous donne un jugement d'existence de Dieu qui est obscur. J'adhère au mystère de la très sainte Trinité. Gloria, Patris, et Filio, et Spiritus Sancto. On s'incline, on adore, on ne voit rien, mais on aime. La foi implique dans son acte une primauté de l'amour. Pas du tout celle de Luther. Luther est beaucoup plus pieux que pour lui, c'est la foi qui justifie. Pour Hegel, c'est la foi qui ressuscite l'intelligence. Et ça, c'est quand même très important à bien voir. Que ce qui est premier dans la foi, c'est la pia affectio. Le terme de pia affectio, c'est Jean de Saint-Thomas qui le prend, et je crois qu'il traduit parfaitement ce qui est dit dans le Concile d'Orange à propos de l'initium fidei, le commencement de la foi. Alors, comprenez que si je ne pars plus du jugement d'existence philosophique, ceci est, mais que si je pars de l'acte de foi comme point de départ, de toute ma philosophie et de toute ma théologie et de toute ma philosophie, l'un va apparaître premier. C'est ça que je voudrais qu'on puisse bien voir, puisqu'on se pose la question, et c'est quelquefois une question assez troublante, comment se fait-il que tous les pères de l'Église et ici l'Orient, le Saint-Père nous demande de regarder l'Orient, la lumière de l'Orient. On doit le faire même au plan philosophique pour pouvoir le faire avec justesse, sans que ce soit un amalgame. On peut faire l'amalgame Orient-Occident, effectivement. J'ai un œil pour l'Orient, un œil pour l'Occident. L'œil qui voit mieux l'Occident. L'œil plus caché, l'Orient, c'est l'affection, c'est l'amour qui passe devant. C'est vrai. Mais ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas vrai. Comment se fait-il que une quantité de pères de l'Église, une grosse majorité, sont néoplatoniciens? Saint-Augustin est néoplatonicien. Denis est néoplatonicien. Les Cappadociens sont presque tous néoplatoniciens. Alors, comment est inscrit, je pose la question, parce que je cherche, et je cherche en fonction un tout petit peu de ce que dit le Saint-Père actuellement à propos de l'Orient. C'est quelquefois, on a l'impression que le Saint-Père, avec tout le respect qu'on lui doit, donne des coups d'encensoir énormes à l'Orient. Et que l'Occident, on est les pauvres types. C'est un peu vrai, du reste, pour certaines choses. L'Occident engendre le positivisme. C'est pas drôle. L'Orient maintient l'aspect religieux. Comment se fait-il autrement, si vous voulez? C'est une question qu'on doit se poser, même au plan philosophique. Comment se fait-il que toute l'influence espagnole maintient plus la foi que l'influence française? C'est visible. Point de vue culture. Sur toutes ces questions-là qu'on doit regarder. Si on ne les regarde pas, notre philosophie ne sert à rien. Alors qu'elle doit éclairer tout ça. Comment se fait-il que l'Orient est beaucoup plus orienté vers le point de vue de la lumière, de l'art, que l'Occident? L'Occident a donné des gros coups violents contre l'art, aussi parce que l'art partait dans des perspectives qui ne sont pas du tout celles de l'Orient. Pour bien comprendre l'influence de l'Orient et de l'Occident, il faut regarder l'histoire de l'art du côté Orient et du côté Occident. Et ce serait très intéressant comme fond du développement philosophique et théologique. Si dans la foi, il y a une primauté de l'amour. Est-ce que par l'amour et dans l'amour, est-ce que l'un n'apparaît pas comme premier? L'un, autrement dit, l'amour est plus proche de l'un que de l'être. Si j'arrive à montrer ça, je comprends pourquoi, si on ne fait pas très nettement la distinction entre foi et intelligence, le point de vue du néoplatonisme s'impose en premier lieu aux théologiens. Puisque les théologiens partent de la foi. Et donc le point de départ, c'est l'amour. Et ça, c'est important pour nous. Surtout quand nous ferons de la théologie. Denis ne cesse de dire l'amour, c'est une force d'unité. L'amour est source d'unité. Aristote ne cesse de dire l'un acolyte de l'être. Mettez ces deux phrases en parallèle et peut-être qu'alors jaillira la lumière. Vis unitiva. C'est la parole de Denis. C'est très beau du reste. Et c'est très vrai, voulez-vous. Regardez dans la famille. S'il y a un très grand amour entre le père et la mère, entre l'époux et l'épouse, il y aura l'unité. Tous les petits bons hommes qui suivent, tous les enfants seront heureux. Il y a l'unité. L'amour vis unitiva. L'un acolyte de l'être. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors, c'est vrai que l'amour, fruit de mon union avec le bien, je suis en connaturalité avec le bien quand j'aime. Et n'oublions pas que ce que Thomas d'Aquin ne cesse de dire que lorsqu'il s'agit d'une réalité qui m'est supérieure, je suis plus proche d'elle en l'aimant qu'en la connaissant. Je suis donc plus un avec Dieu par l'amour que par la connaissance. Et c'est vrai. Plus un avec Dieu par l'amour que par la connaissance. Et donc l'amour doit passer devant. Et si je suis un bon théologien, il faut que l'amour passe devant. Et on reconnaît que la grande erreur de Descartes, c'est de ne pas avoir compris ça. Et d'avoir là mis une orientation rationnelle à l'égard de la théologie. À l'égard de la recherche de Dieu qui n'est pas juste. Alors, si à l'égard de Dieu, l'amour passe avant la connaissance, je comprends comment l'un qui est le fruit d'amour, l'un est plus proche de l'amour que de l'être. Parce que il y a un lien de nécessité entre l'amour et l'un, entre l'être et l'un. Il y a un lien de nécessité des deux côtés. Mais du côté de l'un, ce lien de nécessité, c'est le lien de la propriété à l'égard du sujet. C'est une unité qui vient de la raison et que la logique manifeste. Le propre de la science et le propre de la connaissance scientifique, c'est de découvrir la propriété d'une réalité dont on cherche ce qu'elle est. Et la métaphysique est science dès qu'on découvre que l'un est acolyte de l'être. La métaphysique est science dès qu'on découvre que l'un est propriété de ce qui est. C'est ce que Hobbes n'a pas vu quand il dit que la philosophie première est une science qui n'est pas achevée. À quoi dire qu'elle reste au niveau des principes? Ce qui n'est pas vrai. Pour Aristote, le livre Iota de la métaphysique montre que l'un et le multiple sont propriétés de l'être acte et de l'être puissance. Et donc, c'est bien une connaissance scientifique achevée qui découvre que l'un est propriété de ce qui est en tant qu'il est. Et c'est quand même la grande découverte d'Aristote. Vous voyez, ce qui fait que quelqu'un est aristotélicien et que quelqu'un est néoplatonicien, c'est devant cette affirmation, ce qui est en tant qu'il est est un. En voyant là la conclusion scientifique de la philosophie première. Ce qui est en tant qu'il est est un. Donc l'un est propriété de ce qui est. Et cette propriété, ce qui est attribué à un sujet est propriété de ce sujet. Quand j'ai détecté le lien de nécessité qui existe entre cet attribut et ce sujet, il y a un lien de nécessité entre la propriété et le sujet qui reçoit cette propriété. Il y a un lien de nécessité entre l'un et l'être. Il y a un lien de nécessité que l'intelligence découvre. Et la philosophie première est science au sens le plus fort quand elle découvre ce lien de nécessité entre ce qui est et l'un. Et là, on a le tampon aristotélicien. Vous êtes un véritable aristotélicien parce que vous dites que l'un est acolyte de l'être, qu'il est acolyte de l'être d'une façon remarquable, parce qu'il est propriété de l'être. Partout où ce qui est est, l'un est acolyte. Il court par derrière, comme un bon acolyte.
Qualifie l'homme.
c'est dans les traductions de Thomas d'Aquin. Dès qu'il y a le Père Simultuné, on traduit analogie. On devrait mettre analogie Père Simultuné, c'est-à-dire l'analogie qui regarde quelque chose de second. L'un est second et n'est pas premier. Dans la pensée d'Aristote. Tandis qu'au contraire, dans la pensée de Platon, le bien est antérieur à l'être. Le bien est source de l'amour. Et l'amour est source d'unité. Donc le lien entre l'un et l'amour est un lien plus intérieur, puisque l'amour est source de l'unité, que le lien entre l'être et l'un, puisque c'est la propriété. Alors, on comprend comment le platonisme et le néoplatonisme découvrant comment l'un est dans l'amour, puisque l'amour est source, l'un est donc quelque chose de. L'un est donc quelque chose qui manifeste l'amour, qui nous fait découvrir l'amour. On comprend alors comment l'un est situé comme quelque chose d'ultime, puisque dans le néoplatonisme et dans le platonisme, notre manière de connaître et ce qui est connu sont toujours identifiés. C'est par l'un que je découvre l'amour, puisque l'un est fruit d'amour. Et donc l'un apparaît comme premier. Et je crois que c'est cela qui nous permet de comprendre pourquoi le néoplatonisme a eu une telle emprise sur la théologie des pères. Ce qui me semble très important à comprendre, surtout aujourd'hui. Vous voyez, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer de comprendre. Donc réfléchissez là-dessus. Ça, je demande une bonne méditation métaphysique. Et la diffusion première du bien, c'est l'un, c'est le fruit. Vous voyez ? Donc causalité finale et efficiente par le point de vue du fruit. C'est à allait à nécessité aussi. Ici, c'est un lien de nécessité formelle. Oui, pardon, ici, un lien de nécessité formelle. Et là, c'est un lien de nécessité efficiente et finale. Problème très important sur lequel il faut réfléchir. Oui, parce que ça éclaire énormément au point de vue historique sur toute l'influence du néoplatonisme sur la théologie. Et comme les pères de l'Église n'ont pas été des philosophes, ils étaient avant tout des théologiens. Ils ont emprunté la philosophie grecque. Et comme le platonisme et le néoplatonisme est plus immédiatement proche de la foi que de la recherche intellectuelle, on s'est servi immédiatement du néoplatonisme. Et donc l'un est passé avant l'être. Oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le théologien regarde Dieu. C'est par l'amour qu'il est le plus proche de Dieu que par la connaissance. Donc, il est plus proche de Dieu par l'amour dont le fruit est l'unité que par l'intelligence qui regarde ce qui est. Et c'est pour cela que les théologiens ont emboîté le pas vers le néoplatonisme. Et il est sûr que dans une théologie mystique, le néoplatonisme peut être utilisé d'une manière plus immédiate, je dis bien, que dans une théologie scientifique. Et c'est encore une raison pour laquelle le néoplatonisme passe devant. C'est qu'on a cherché avant tout une théologie mystique, plus qu'une théologie scientifique. Donc là, c'est pour montrer encore une fois l'importance de ce problème de l'un et du multiple. C'est vraiment un problème extrêmement intéressant pour voir comment, dans l'intelligence humaine, si je ne distingue pas très nettement ce qui spécifie la connaissance et ce qui finalise ma vie, si je ne distingue pas très nettement ces deux aspects, je ne peux pas comprendre pourquoi nous sommes aristotéliciens et non pas platoniciens et néoplatoniciens. Si je confonds la recherche de l'intelligence et le point de vue vital, si je les confonds, le point de vue vital l'emportera toujours et je serai néoplatonicien. Je dirais le néoplatonisme passe avant. Mais en réalité, non. Parce que je ne peux pas ne pas distinguer l'être et la vie. Donc toute philosophie qui confond être et vie sera tôt ou tard liée au néoplatonisme. Par le fait même, l'un passera avant l'être. Parce que l'amour passera avant l'être. C'est vrai, c'est plus important d'aimer Dieu que de le connaître. Mais l'aristotélisme reprend sa vengeance en disant vous aimez Dieu sans connaître, très vite, l'imagination va se mêler à votre amour. Et votre amour n'aura plus la pureté qu'il devrait avoir. Et vous tomberez dans le puits. Comment se fait-il que certaines attitudes mystiques peuvent très facilement ne plus distinguer le point de vue du symbole et le point de vue des principes, et par là s'encombrer d'imagination. Et la purification de l'imagination ne se fait plus. Au moins la purification active. La purification passive, elle dépend de l'Esprit Saint. Là, c'est autre chose. Mais la purification active, donc la manière de parler, la manière de s'exprimer, la manière de forger une théologie mystique, ça relève de l'intelligence, forcément, puisque c'est la parole. Et la parole est le fruit de l'intelligence. Le geste est le fruit de l'amour, mais la parole est le fruit de l'intelligence. Donc vous voyez là, il y a un problème extrêmement intéressant qui complète ce que nous avions vu la dernière fois. Pour moi, est un problème que je me pose depuis très longtemps. Pourquoi le néoplatonisme a-t-il une telle emprise sur le point de vue humain et sur le point de vue des théologiens ? C'est vrai, on dirait, mais l'homme est fait pour la vérité. Et donc il devrait tout de suite être aristotélicien. Et comment se fait-il que la plupart du on est néoplatonicien. Comment se fait-il que l'université européenne est beaucoup plus néoplatonicienne qu'aristotélicienne? Alors qu'elle est université, et donc elle devrait mettre le primat sur la connaissance. Si vous comptez et si vous regardez, vous voyez que les aristotéliciens sont toujours très peu nombreux. Paradigme au néoplatonisme. Il faut chercher pourquoi, si on fait une véritable histoire de la pensée, et seule l'histoire de la pensée sert la philosophie. Regarder les faits sans regarder le pourquoi, ça ne sert pas à grand chose au point de vue intelligence. Tandis que là, si je saisis le pourquoi, c'est-à-dire si je saisis la différence du lien entre l'un ce qui est l'un et l'amour, je découvre. Vous comprenez que l'amour passe avant ce qui est, pour tout ce qui est plus élevé que moi, plus grand que moi, donc Dieu. Alors voyez cette espèce de contradiction. La Sorbonne n'ayant plus le souci premier de chercher ce qu'est Dieu. C'est un fait. Je ne peux pas dire que, à la Sorbonne, le souci dominant, c'est de savoir ce qu'est Dieu. Et seulement, pas seulement la Sorbonne, mais je dirais toutes les universités européennes. Pour ne pas dire toutes les universités américaines. Leur souci premier, c'est de chercher ce qu'est l'homme. Et non pas Dieu. Ils devraient comprendre alors que l'être passe avant l'amour. Et cependant, il continue d'être néoplatonicien. Alors pourquoi cette contradiction ? Il y a une contradiction là. Aristote est tourné vers l'homme, Platon est tourné vers Dieu. Cette fresque admirable, Platon qui regarde le ciel, Aristote qui regarde la terre, c'est vrai au niveau de ce qu'il y a de premier dans la recherche. Aristote cherche en premier lieu ce qu'est l'homme, Platon cherche en premier lieu ce qu'est Dieu. Connais-toi toi-même et les dieux. Socrate. regardez les dieux, l'autre regardez l'homme. Alors pourquoi en Sorbonne, dans l'université européenne, où l'influence néoplatonicienne a dominé, comment se fait-il que actuellement, ce n'est plus Dieu qu'on regarde en premier lieu, mais c'est l'homme. D'où ce primat de la laïcité chez presque tous les philosophes. D'où ce positivisme qui s'est introduit. C'est la même raison que ce qu'on voit dans les idéologies athées. C'est qu'on a bloqué aristotélisme et catholicisme. À cause de Thomas d'Aquin. Vous voyez, la condamnation de Thomas d'Aquin par l'université française par la Sorbonne est très significative. On a bloqué Thomas d'Aquin et aristotélisme. Or, la révolution s'est opérée du point de vue de la pensée avant la révolution politique. Il y a eu d'abord une révolution de la pensée. Révolution de la pensée, elle date d'Occam. La révolution a sa source dans Occam. Occam, Descartes, Hegel. Voilà, les trois grands moments. Et dans ce point de vue de révolution, on s'oppose violemment en premier lieu et ne plus regarder Dieu. Et je crois que c'est cet a priori affectif qui identifie Thomas d'Aquin, donc le catholique, et Aristote, qui fait qu'on maintient le néoplatonisme. Parce que c'est contradictoire. C'est ça qui est très curieux. Le néoplatonisme regarde Dieu en premier lieu. Ça, c'est net. L'aristotélisme regarde l'homme en premier lieu. Donc, si on était logique avec soi, on devrait être aristotélicien, puisqu'on regarde Dieu, l'homme en premier lieu. Non, on continue d'être néoplatonicien. Mais on est un néoplatonicien de gauche. Exactement comme il y a un hegélianisme de gauche, il y a un néoplatonicien de gauche. Et alors on affirme sur la non-connaissance de Dieu. C'est un X qu'on ne connaît pas. Et c'est l'attitude de Feuerbach. Dieu, on le rejette parce qu'il est un inconnu. Et qu'en réalité, cet inconnu, c'est la projection de toutes nos insatisfactions. Dieu provient d'une conscience malheureuse de l'homme. Alors il projette une sorte de paradis qui est Dieu. Et il dit qu'il est fait pour ça. Pendant ce temps-là, il ne regarde pas la terre. Il ne regarde pas ses misères. Il a un tout petit peu de baume dans le cœur. Un jour, je serai avec Dieu. Mais c'est la sucette qui permet de ne pas regarder le malheur de la terre et les difficultés de la terre. Enfin, voit très bien tout ça, ça se tient. Et qui fait que le néoplatonisme l'emporte. Oui. Pour moi, le grand problème de l'un et du multiple, c'est cela. Alors, on pourrait maintenant, second point de vue, regarder pourquoi l'Orient orthodoxe s'est-il maintenu dans le néoplatonisme et n'a pas voulu de l'aristotélisme de Thomas d'Aquin. C'est important ça. C'est un fait. Voyez, au fond, Byzance et Rome, il y a eu deux couleurs différentes. Rome, Thomas d'Aquin, le latin. Byzance, le grec, néoplatonisme. Mais Aristote est grec aussi. Et d'une certaine manière, il est plus grec que Platon. Et on le reconnaît de plus en plus maintenant. Aristote est beaucoup plus dans la tradition grecque que Platon. Platon a subi des influences qui n'étaient pas grecques du tout. Brayer le reconnaît, ça. C'est un bon historien, honnête. C'est très curieux, là encore, vous voyez, cette espèce de contradiction latente. Il faut reconnaître ces contradictions affectives. Des positions qui sont illogiques. Si on est grec, on doit être aristotélicien et néoplatonicien. Et on maintient les deux. Parce que la Grèce implique les deux. Athènes implique les deux. Socrate est le père de Platon et il est le grand-père d'Aristote. Et comme tout le monde sait, ça saute une génération. Aristote lui-même le dit qu'il est plus proche de Socrate que Platon n'est proche de Socrate. Et c'est vrai, c'est Socrate qui est celui qui est source d'Aristote, source du néoplatonisme. Alors pourquoi on voit ce phénomène théologique chez les orthodoxes? Les latins. Et je crois que cette opposition est beaucoup plus forte qu'on le pense. Saint Thomas a été terriblement abîmé par la scolastique décadente. Or, les théologiens orthodoxes parle de Thomas d'Aquin, voit toujours la scolastique décadente et n'étudie pas Thomas d'Aquin pour lui-même. Ça, j'en ai fait l'expérience. Alors, je comprends très bien que la scolastique décadente, c'est le primat de la logique. Les orthodoxes ont comme intention fondamentale de garder la foi. Or, la foi, point de départ, la pia affectio, concile d'Orange, qui est commun aux Grecs et aux Latins. La pia affectio, le primat de l'amour. Si vous regardez le primat de la logique, l'amour échappe complètement à la logique. Et c'est pour ça que dans la scolastique décadente, le théologien ne cherche plus que l'aspect scientifique que donne la logique. Et ne regarde plus ce que c'est que l'amour. La théologie latine s'est développée sans aucune théologie mystique. Et des quantités de thomistes qui restent dans la scolastique décadente, dès qu'ils voient théologie mystique égale spiritualité, c'est-à-dire égale l'aspect subjectif du théologien, du chrétien. C'est ça la spiritualité. Ce n'est pas la théologie mystique. La théologie mystique développe un aspect direct de la révélation. Dieu est amour. La logique ne dit rien de Dieu. Dieu est amour. Alors vous comprenez qu'on est arrivé à des positions qui se sont durcies avec le temps. D'une part, la théologie latine qui a perdu, ça il faut bien le reconnaître, qui a perdu ce contact direct d'une connaissance mystique. Il y a beaucoup de mystiques dans l'Église de Rome. Il y a beaucoup de mystiques au plan pratique, même au plan contemplatif. On ne peut pas nier la grande Sainte Thérèse, la petite Thérèse, Saint Jean de la Croix. Ce sont des mystiques merveilleux qui dépassent complètement l'aspect logique. Il suffit d'entendre Thérèse d'Avila pour voir qu'on est loin de la logique. Alors on dit, c'est pas étonnant, c'est une femme, mais pas du tout. C'est parce qu'elle vit sa vie chrétienne. Alors elle dépasse complètement la logique. Et tout ça est resté comme des choses individuelles et personnelles. Toute la théologie mystique ne s'est pas développée à partir de là. Alors qu'on aurait dû considérer que le regard d'une petite Thérèse sur l'Évangile n'est pas le même regard que le théologien scientifique sur l'Évangile. Le regard d'un Saint Jean de la Croix, d'une grande Thérèse d'Avila, n'est pas le même que le regard de l'exégète sur la parole de Dieu. La logique a pris une force énorme en Occident. À tel point qu'à Fribourg, le père Borinsky, dominicain, avait dit il y a 15 ans, d'ici 10 ans et 15 ans, il n'y aura plus que des logisticiens. Et puis ceux qui sont dans la poésie. Il n'y aura plus de vraie recherche philosophique. Parce que pour lui, la logique doit assumer toute la philosophie et toute la métaphysique. Ça, c'est typique. C'est une caricature, si vous voulez, mais c'est une caricature qui naît de cette orientation de l'Occident. L'orthodoxie, au contraire, s'est enfermée, on peut le dire, dans la vie monastique. Patmos et le Moindos. Les théologiens sont des moines, ou plus exactement, les théologiens sont en dehors des moines pour la communication aux autres. Mais c'est la vie monastique qui garde la vraie théologie mystique, la divinisation de l'homme. seule chose qui les intéresse, la divinisation de l'homme. Alors, eux sont restés avec la théologie néo-platonicienne pour garder le trésor du christianisme, la divinisation. Et alors, on est en face, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, de deux blocs qui se regardent et se comprennent plus beaucoup. Le langage mystique des moines, le langage logique et scientifique des théologiens latins. Je grossis un tout petit peu, mais c'est, je crois, exact. Et dès qu'on montre aux orthodoxes qu'on aime la théologie mystique, qu'on aime ce primat d'amour, et il vous tape dans le dos en disant « Vous êtes un véritable orthodoxe. » Et il vous pose la question « Comment se fait-il que vous aimez Thomas d'Aquin ?» Ça m'a été posé. À la fois, ils m'ont dit « Vous êtes un véritable orthodoxe. » J'ai dit « Merci. » Mais comment se fait-il que vous aimez Thomas d'Aquin ? C'est très très significatif ça. Et c'est l'influence du néoplatonisme. Oui. Et c'est pour cela, je crois, que il y a les relations et les rapports entre orthodoxe et catholique, et le Saint-Père le veut, c'est le problème du primat de l'un et du primat de l'être. Foncièrement, c'est ça. C'est ça qui est intéressant à essayer de comprendre, vous comprenez ? Quand on voit l'un, propriété de l'être, tu dis, mais pourquoi ce problème-là ? Mais oui, mais c'est radical pour comprendre tout ce que représente une tradition thomiste aristotélicienne. Et pour comprendre l'autre tradition, la tradition orthodoxe, elle est platonicienne. Il n'y a pas eu de pont entre les deux. Pourquoi les thomistes ont été paresseux? Ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de Thomas d'Aquin. À ce moment-là, ils auraient vu comment Thomas d'Aquin veut une théologie mystique. Et c'est par la théologie mystique qu'on rejoint le néoplatonisme des orthodoxes. Parce qu'on doit essayer de comprendre ce qui se passe, même au plan purement philosophique. C'est, je crois, capital d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est cela. Je le résume de cette manière-là. Vous voyez, comme au plan philosophique, tout le développement de la philosophie européenne peut se résumer l'être relatif à la pensée relative à l'être. Ce qu'a dit Étienne Gilson, c'est juste. Au plan théologique, c'est cela. Et donc, plus profondément encore, c'est la question de l'un avant l'être, ou l'être avant l'un. C'est absolument fondamental. C'est ça qui explique l'objectivité aristotélicienne et la subjectivité.